Si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent à nous tous que quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose, parce que nous gênons. Profondément nous gênons.
Parler sans être entendu, avec cette impression insupportable de gêner. C'est ce qui est arrivé à Simone Veil, et avec elle à tous les rescapés des camps de la mort. Il a fallu des années avant qu'on reconnaisse la réalité même de leur calvaire, avant qu'on mette des mots sur l'indicible barbarie nazie. Le film d'Alain René, Nuit et brouillard, en 1956, puis le procès d'Adolf Eichmann, le logisticien de la solution finale, en 1961, ont grandement contribué à rendre audible la parole de ces témoins.
L'intérêt du témoignage, c'est bien évidemment le fait que le témoin raconte l'histoire au présent et qu'on partage encore le même temps que celui du témoin.
Aujourd'hui, les derniers survivants des camps disparaissent. Ils ne sont plus qu'une centaine à peine en France. Il n'y aura bientôt plus de porteurs de mémoire. Ceux qui restent, à l'image de Ginette Colinca, déportée en 1944 dans le même convoi que Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens, se hâtent de rencontrer le plus de collégiens possible. Ils accompagnent aussi certains lycéens à Auschwitz libérés il y a aujourd'hui 74 ans. Shoah, les derniers passeurs de mémoire, c'est un reportage de Victor Matet et Romain Luquiens qu'on retrouve dans un collège du Pas-de-Calais.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Lundi matin, il est 8h, nous sommes à Calais, nous arrivons au collège Lucien Vadez, situé dans un quartier prioritaire, ce qu'on appelait avant les zones urbaines sensibles. Il y a plusieurs bâtiments blancs et verts auxquels on accède par un parking extérieur. Bonjour, vous pouvez vous présenter, dire votre prénom, dans quelle classe vous êtes?
Je m'appelle Shaina, j'ai 13 ans, je suis en 3ème 4.
Et je m'appelle Brianne et j'ai 14 ans et je suis en 3ème 4.
Qu'est-ce que vous allez voir ce matin? Qui est-ce que vous allez voir?
On va voir Madame Colinca, une rescapée de la Première Guerre mondiale.
C'est de la Première Guerre mondiale, tu es sûre?
je sais plus.
Seconde.
C'est la seconde, ouais.
Comment tu t'appelles, toi?
Alan.
C'est la première fois que tu vas rencontrer une déportée, une rescapée?
Ouais, c'est la première fois que je vais rencontrer une déportée.
Qu'est-ce que tu attends de cette visite?
Bah, comme elle l'a vécu, elle expliquera mieux que les professeurs.
Allez, vous pouvez y aller. Simon Braillon, enseignant d'histoire, géographie et éducation morale et civique au collège Lucien Vadez à Calais. Donc c'est un collège avec une grande part d'élèves défavorisés, des classes sociales qui n'a pas la chance d'avoir un accès à la culture assez courant, et des élèves qui sont parfois difficiles, mais dans l'ensemble qui sont corrects, dans le comportement je parle, et souvent très intéressés, mais certains très réticents et aux apprentissages et à tout ce qu'on pourrait leur proposer d'extérieur.
Pourquoi vous avez fait venir Ginette Colinca?
Alors pour plusieurs raisons. Bon, déjà, je suis enseignant en histoire. Après, il me paraît essentiel que des élèves puissent écouter des témoins de la Shoah. Je ne fais pas intervenir que forcément des témoins sur cette période-là, mais ça me paraît essentiel. Un petit clin d'œil aussi à ma mère, qui a été la première génération à pouvoir voir des personnes issues de la Shoah, et mes élèves qui vont être malheureusement les derniers à pouvoir écouter ces personnes.
Vous m'aviez dit hors micro que ça vous arrivait, ou encore régulièrement, de montrer à vos élèves Nuit et brouillard d'Alain René, le film sur les camps et la déportation. Et il y a notamment la fin du film, un message que vous aimiez bien, c'est ça que vous m'aviez dit?
J'aime beaucoup la conclusion d'Alain René, qui est un petit peu, quoi, peu accessible pour les élèves de collège, mais cette ouverture d'Alain René qui dit que les bourreaux ne sont pas que d'un seul temps et dorment, disons, dans des contextes de démocratie, mais ils peuvent se réveiller à tout moment et qu'ils existent et que ce n'est pas à exclure que ça puisse revenir, en tout cas. Donc je travaille beaucoup sur cette conclusion de Nuit et brouillard.
Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui. Je m'appelle Ginette Kolinka, mais mon nom de jeune fille, c'est Ginette Cherkaski.
Oui, normalement, on ne demande pas ça à une dame, mais vous pouvez nous donner votre âge?
Ah oui, mais en attendant, je suis quand même un cœur à prendre. Alors, en donnant mon âge, actuellement, ça va être restreint. Bon, eh bien, je suis plus près de 94 maintenant que 93. Mais j'ai quand même encore 93. En février, j'aurai 94.
Vous avez votre nom qui est écrit en énorme derrière vous, là, sur un écran géant.
Ah oui.
Qu'est-ce que ça fait de voir son nom comme ça en énorme?
Je suis blasée maintenant. Vous savez qu'une fois, j'ai été témoignée un soir dans un petit village à côté de Melun. Je suis arrivée, il y avait mon portrait et mon nom sur tout le long de la route, comme les vedettes, vous savez, comme les... Alors maintenant, je suis blasée. Est-ce que vous voyez de loin? Oui. Bon, alors, est-ce que vous voyez, ce sont deux enfants. Vous êtes des collégiens, je crois. Oui. Donc, ce petit jeune homme-là avait votre âge. Et ça, c'est un autre petit, il avait 12 ans et demi. Et si moi, vous me regardez, est-ce que vous voyez quelque chose de spécial en moi? Moi, je ne crois pas. J'ai un visage, j'ai des yeux, un nez comme tout le monde, une bouche, je sais un peu rire, pleurer, comme eux étaient. Eh bien, pour un nommé Hitler, on n'était pas des gens normaux. On était juifs, et comme on était juifs, il voulait... Hitler haïssait les juifs. Il n'était pas encore au pouvoir que déjà il savait. C'est ça qui est terrible. Hitler avait préparé, bien avant d'être au pouvoir... ce qu'il voulait faire avec les Juifs, tellement sa haine était forte. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer tous les Juifs d'Europe. Le train, maintenant, s'est arrêté. Définitivement, les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que ça a été agréable! Je ressens encore cet air vif qui nous a surpris, mais c'était tellement bon. On était dans le noir tout le temps, donc les projecteurs nous éblouissent, mais c'était tellement bon. Un quart de seconde après, c'est fini.
Schnell,
aufstehen! Les gens sautent dans le wagon, nous poussent. Schnell, il faut descendre. Il faut laisser tous les bagages, ils vont nous les emmener. Je suis assise au bord de la porte, je suis prête à sauter pour descendre sur le quai et j'entends les officiers qui hurlent quelque chose. Moi, je ne comprends pas, mais je demande autour de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les camions qui sont là, sont à votre disposition. Ah, moi j'entends ça. Papa, Gilbert, prenez le camion. Pour moi, papa était vieux. Maintenant, je dis qu'il était jeune, il avait 61 ans. Mais mon petit frère s'était trouvé mal dans le voyage. Donc, ils m'ont écouté. Ils sont montés sur les camions. Mais il y en a très peu qui sont montés sur les camions. On voulait tous marcher. On va se dégourdir les jambes. On va respirer, même si ils disent que c'est dur. On s'en fout. On veut marcher. Alors, on est tous sur le quai. Et maintenant, de nouveau désordre. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre côté. J'ai beaucoup parlé. J'espère qu'il y a encore le temps pour que vous me posiez des questions. Il y a le temps. Alors, à vous les questions maintenant.
En voulez-vous aux Allemands?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Naturellement, Et maintenant, je fais une grande différence entre les Allemands et les nazis. Cette question, vous me l'auriez posée même 10 ans après mon retour, je ne vous aurais pas dit ça. Même que d'entendre parler alsacien, pour moi, c'est de l'allemand. Et c'est fou, ça, ça me... Mais maintenant, c'est tout à fait différent. Je n'en veux pas du tout. Pourquoi en voudrais-je à un homme qui a même 80 ans ? S'il a 80 ans, ça veut dire qu'à l'époque, il avait 6-7 ans. Est-ce qu'un enfant de 6-7 ans, je lui en vouloir ? Il n'y a pas de raison que j'en veuille aux Allemands. J'en veux aux nazis. Et malheureusement, c'est que des nazis, il y en a aussi en France. Souvent, les élèves, après que j'ai parlé, applaudissent. Si vous voulez applaudir, applaudissez vos professeurs. Ça, oui. Mais moi, ne m'applaudissez pas. Par contre, moi, je vous applaudis. Moi, je vous applaudis parce que, à partir de maintenant, c'est vous qui êtes ma mémoire. Et ce que j'espère, c'est que vous allez en parler. Et surtout, surtout, vous rappeler où mène la haine. Personne n'est parfait, mais il n'y a pas de raison que, parce qu'on n'est pas parfait, qu'on ne vive pas. Parmi nous, il y a des salauds, parmi nous, il y en a des très bien, et c'est comme ça partout. Il faut faire très attention, parce qu'on peut peut-être, nous aussi, devenir, sans le vouloir, des bourreaux. Et merci. Et bon appétit. Bravo, les professeurs.
Juste vous demander de vous regrouper autour de Madame Colinca. On va faire une petite photo. Donc, vous vous mettez autour de Madame Colinca, s'il vous plaît. N'étouffez pas Madame Colinca. Les élèves, serrez-vous. Tout le monde regarde.
Superbe.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Je peux prendre une photo avec vous ?
Oui, oui, allez-y.
Pas trop fatigué ?
Non, non, pas du tout. Moi, ça me fatigue pas de parler. Hein.
Oh. Moi, ça me fatigue quelquefois en cours. Oui.
Bon retour.
Merci, mademoiselle. Alors à vous, hein, maintenant, vous êtes ma mémoire. Il faut en parler à vos familles, à vos amis. Rappelez-vous que tout ce que vous avez entendu, c'est la haine. N'oubliez pas, c'est la haine qui a fait faire Hitler des choses aussi dures. Merci.
Voilà. Je vais le dire à tout le monde.
Alors c'est vous qui m'emmenez.
C'est ça, bien.
Au revoir, je vous permets, je vous fais la bise.
Ah bah, très volontiers.
Au revoir.
Et merci quand même si vous n'aimez pas ça.
Bah, merci à vous, hein. À votre service. Je ne dis pas l'année prochaine parce que 94 ans, c'est vieux. Hein.
Quand même. Moi, je vous dis quand même à l'année prochaine.
Hop là. Au revoir.
On va revenir un petit peu sur hier, sur l'intervention de Madame Colinca, ce que vous en avez pensé.
C'était bien parce qu'elle nous a raconté sa jeunesse.
Oui. Pourquoi et vous avez trouvé ça utile ou bien ?
On s'est rendu compte mieux qu'en cours.
Elle a conclu aussi, désormais vous êtes ma mémoire.
Oui, mais elle est vieille. Du coup, elle va peut-être bientôt décéder.
Oui.
Et du coup, il faut raconter son histoire à des autres gens pour que notre génération d'après... Bah, il puisse raconter...
Tout à fait. Et, mais alors du coup, pourquoi elle vous demande de raconter ?
Il faut pas oublier pour pas que ça recommence.
Ouais, parce que tu penses que ça peut recommencer ?
Bah oui. Bah, en Italie, l'histoire, elle se répète un peu, par exemple.
Vous êtes les derniers, en tout cas la dernière génération, qui va entendre ça. Vos enfants ne verront jamais, malheureusement, ne pourront jamais entendre quelqu'un qui a été déporté dans un camp de concentration. Ah bah oui, jamais. C'est logique. Et les seuls que vos enfants pourront entendre, c'est vous qui leur diront bah, « moi j'y étais, moi j'ai écouté, je l'ai vu, donc oui, je peux porter sa parole ». Alors, Mme Colinca, elle a dit un truc assez intéressant. Elle a dit qu'on peut s'opposer à une personne, ne pas aimer une personne pour plein de raisons, mais ne pas aimer un groupe de personnes. On ne peut pas reprocher à un groupe. Pourquoi d'ailleurs elle dit ça ?
Ils ne sont pas tous les mêmes.
Oui, ils ne sont pas tous les mêmes. Elle parlait de quel groupe ?
Bah, les Juifs.
Les Juifs. Est-ce qu'on peut étendre cette vision-là ? Qu'on peut ne pas aimer une personne parce qu'elle nous a embêtés et ne pas faire de généralisation ? Est-ce que vous avez d'autres exemples de groupes ? Et notamment à Calais.
Bah, les migrants.
Qu'est-ce que vous en pensez des migrants ?
Et en fait, il y en a plein qui disent « Ouais, les migrants, c'est des mauvais, tout ça, mais il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. » Parce qu'il y en a des bons aussi.
Ouais.
Il y en a des bons, il y en a des mauvais.
Exactement. C'est comme les élèves. Ce n'est pas parce qu'il y a 2-3 élèves qui vont poser problème dans un collège que tout le collège... Alors, malheureusement, hein, quelquefois, un collège a une image parce qu'il y a 10 élèves sur 500 qui posent problème. Bah, là, c'est pareil. Vous avez tous certainement entendu une histoire. Ah bah tiens, on m'a dit que le cousin de ma tante par alliance m'a dit que je me suis fait piquer une sucette par un migrant. Ah ouais, les migrants sont des voleurs de sucettes. Quoi, vous avez tous entendu, vous avez tous des exemples comme ça.
Oui. Oui, bonjour, on vient pour la radio, pour France Inter.
Oui, ça sera au premier étage.
Merci.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Raphaël Ezraï, vous avez 93 ans, vous êtes le président de l'Union des déportés d'Auschwitz. Combien de rescapés témoignent encore régulièrement, comme Ginette Colinca ?
Je rappellerai deux chiffres qui sont importants. Il y a eu 78 000 juifs qui ont été déportés de France, environ 3 000 sont rentrés. Aujourd'hui, il en reste probablement pas plus de 150 encore vivants. Très peu restent capables de pouvoir témoigner, 5 ou 6 maximum.
Avec la même intensité que Ginette Colinca, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine en se déplaçant ?
Non. Il y a, je crois, 3 femmes qui sont encore capables de le faire. Mais bon, Ginette fait partie du lot de tête.
C'est une exception ?
Oui, c'est probablement une exception.
Vous parlez d'une ère des survivants plutôt que d'une ère du témoin. Pour quelle raison ?
Parce que tous les survivants n'ont pas été des témoins, pour plusieurs raisons. Ils sont souvent des raisons personnelles, des raisons aussi de conscience, de capacité. Mais Auschwitz a été la transgression de l'universel. C'est-à-dire arriver à faire que des hommes soient passés au-delà de tout ce que l'homme est lui-même, ce qui s'est passé à Auschwitz, ce qu'est Auschwitz, et ce que sont évidemment tous les crimes d'ailleurs contre l'humanité, je dirais postérieurs, concernent tout le monde, et ça ne concerne pas que les Juifs. Je crois que c'est cette prise de conscience qu'il faut faire pour éviter que les choses ne recommencent.
Vous avez peur, vous, que ça recommence ?
Je dis que tout peut recommencer. C'est avec beaucoup de tristesse. C'est quand même quelque chose qui nous hante et qui me hante. C'est que postérieurement à la guerre et postérieurement à Auschwitz, il s'est quand même produit des génocides. Et cela est insupportable. Est insupportable pour la réflexion. Est insupportable pour, j'allais dire, tout humain normalement constitué. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ce qui se passe au Yémen... C'est absolument insupportable. On a gazé et on assassine des millions d'hommes, d'enfants. Comment ne pas avoir cette hantise alors que l'on voit revoir réapparaître le nationalisme d'une façon très prégnante ? On peut être inquiet, et je le suis. Le monde a changé. Il faut en même temps s'adapter à ce monde afin qu'il soit meilleur. C'est tout de même magnifique. Je crois que c'est magnifique, il faut quand même l'admettre. Il y a quand même 75 ans que les gens d'Europe ne se battent pas, malgré tout. Et c'est dû à quoi, tout de même ? peut-être un peu dans le cadre de ce qui est resté dans la mémoire des hommes, dans la mémoire d'Auschwitz, peut-être ce qui est resté, c'est que l'Europe, elle a été faite contre Auschwitz pour conserver justement ces valeurs qui sont les valeurs fondamentales. Et on doit y réfléchir, parce que le jour où il y aura un émiettement, une brisure de cet ensemble, de cette cohérence, eh bien en même temps, il y aura une brisure des hommes.
Oui, allez. Eh bien alors.
Au revoir, merci beaucoup.
Bon retour.
Merci.
Bon retour, bon retour.
Dans sa cage de verre à l'épreuve des balles, Eichmann, une silhouette banale. En face, trois juges. Rien de spectaculaire. Nous sommes cependant peut-être devant le plus énorme et le plus étrange procès de l'histoire. Car sous les phrases sans relief de l'acte d'accusation, ce sont 5 millions de juifs qui parlent, 5 millions de morts.
Quartier de la Gare du Nord à Paris, nous arrivons chez Annette Wiewiórka, historienne spécialiste de la Shoah, auteur notamment du livre « L'ère du témoin ». Elle y explique le tournant que représente le procès en Israël au début des années 60 d'Adolf Eichmann, criminel de guerre nazie et responsable logistique de la solution finale.
J'ai beaucoup travaillé et écrit sur Auschwitz et sur le témoin et le témoignage. L'intérêt du témoin, il s'est manifesté lors du procès d'Adolf Eichmann, où le procureur a choisi de faire raconter l'histoire par ceux qui l'avaient vécu. Et là, il y a eu cette idée que le témoin était porteur d'histoire et porteur de mémoire.
Les témoins défilent à la barre. Ce sont des gens qui viennent déposer contre Eichmann, bien entendu.
Le célèbre chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher.
Il est important que le monde entier sache ce qui se dit ici, ce qui se passe ici.
Jérusalem, avril 1961.
Et il est important que personne n'oublie qu'il a existé au XXe siècle, au cœur de l'Europe, dans un pays civilisé, un régime nazi qui a pu engendrer des Eichmann.
L'intérêt du témoignage, c'est bien évidemment le fait que le témoin raconte l'histoire au présent et qu'on partage encore le même temps que celui du témoin. En revanche, pour une histoire totale, le témoin n'est pas forcément d'une importance aussi capitale. Le témoin ne peut rien dire sur la façon dont a été organisée la solution finale, il peut rien dire sur l'organisation d'Auschwitz, il ne peut en principe témoigner que de la toute petite parcelle qu'il a vue. Et très souvent, il n'a pas les clés de compréhension de ce qui lui arrive.
Quel est le statut aujourd'hui du témoin ?
Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'enseignement de la Shoah maintenant que les derniers survivants nous quittent. Alors, je pense que l'angoisse qui se manifeste, elle est particulière parce qu'on a assigné un rôle pédagogique à ces survivants. On leur a assigné le rôle de dire l'histoire et de s'adresser aux enfants et de dire aussi la morale.
C'est-à-dire qu'on a fait... Ils délivrent un message, finalement.
Ils délivrent un message. Alors, si je veux m'amuser, je peux dire quel message. J'ai bien connu Marceline Rosenberg, son nom de famille, Laurie Dan Evans, à ses obsèques, et beaucoup de jeunes. Et qu'est-ce que les jeunes aimaient chez Marceline? C'est que jusqu'à la fin, elle aimait faire la fête, elle aimait picoler, et elle aimait fumer des petits joints. Donc on va pas donner quand même à notre belle jeunesse, sauf si on veut lutter pour la dépénalisation du haschich, l'exemple de Marceline. Donc on a fait de ces survivants des sortes de figures exemplaires qui allaient leur dire la morale. C'est une vision christique, en fait, que la souffrance rendrait meilleure.
La disparition progressive des témoins, pour l'historien, ça ne change rien ?
On pouvait avoir la crainte que cette histoire disparaisse, qu'elle ne soit pas inscrite dans la mémoire du monde. Cette crainte, elle est aujourd'hui obsolète. Le travail historique a été considérable. Je crois qu'il n'y a pas un autre événement dans l'histoire qui a fait l'objet d'autant de travaux dans un laps de temps aussi court. Le travail de recueil des témoignages, ce sont des centaines de milliers de témoignages, si on prend tous les vecteurs, c'est-à-dire audio, vidéo, écrit, et puis c'est totalement rentré dans l'imaginaire collectif, donc il n'y a pas de crainte sur le plan historique, sauf quand même l'éloignement de la guerre. Et je crois qu'on le voit le mieux, c'est en Allemagne, où le travail de mémoire a été exemplaire, considérable, et où on voit une extrême droite néo-nazie, xénophobe, antisémite, avoir pas loin de 100 députés au Bundestag. Et je pense que c'est le phénomène d'éloignement de la guerre. Donc la disparition des témoins, c'est aussi le fait que les jeunes n'ont plus de contact familial, par exemple, avec la guerre. Donc c'est plus ça, l'éloignement dans le temps.
Bonjour.
Pour ma mère, c'est ici.
Voilà, très bien. Vous êtes pile à l'heure. Pile à l'heure. Pile à l'heure.
Alors, je m'appelle Richard Kolinka, normalement, et je suis le fils de Ginette Kolinka, qui est une personne merveilleuse, qui se trouve être ma mère. Ça tombe bien.
Vous dites Kolinka, vous ?
Oui, enfin, on peut dire Kolinka. Je sais pas, je trouve que Kolinka, comme je suis musicien, je trouve que c'est plus musical, Kolinka.
Vous êtes aussi, on vous connaît comme étant le batteur du groupe Téléphone à la fin des années 70 et puis dans les années 80. Richard Kolinka, est-ce que vous vous souvenez le moment de votre vie où vous avez appris que votre mère avait été déportée ?
Pas vraiment, justement, j'y pense de temps en temps, pas tout le temps, hein, bien sûr, heureusement. Mais à chaque fois, je me demande comment je l'ai appris, parce qu'elle n'en parlait pas. Je me souviens quand j'étais môme, quand je dis môme, c'est vers les 5-6 ans, il y avait un livre sur les déportés avec des photos horribles. Et je regardais ça, mais quand on a 5-6 ans, on ne se rend pas trop compte. Et puis, ma mère avait un numéro sur le bras. Et je pense que je devais me dire que les mamans devaient avoir un numéro sur le bras. Enfin, j'imagine, parce que je posais pas de questions, on n'en parlait pas, voilà. Je le savais sans le savoir.
Est-ce que depuis, vous lui avez posé des questions ou est-ce que vous en avez parlé avec elle ?
Oui, depuis son engagement, en plus depuis qu'elle va dans les lycées, dans les collèges et qu'elle amène justement ses lycées et collèges dans ces camps de la mort. Oui, on en a parlé, puis nous y sommes allés ensemble, en famille, et comme elle nous l'a dit en arrivant là-bas, OK, quand on arrive là-bas, c'est horrible, mais on n'a ni les odeurs, ni les bruits, ni les cris, ni les pleurs, ni le froid, enfin, ni tout, quoi, ni le réel. En plus, un des baraquements qui reste, c'était là où elle dormait, enfin, si on peut appeler ça dormir, entre autres avec Simone Veil, avec Marceline. Et comme ma mère est quand même d'une nature joyeuse, dès qu'on sort du camp, elle redevient cette personne avec beaucoup d'humour et elle a pris la vie, elle l'a croquée, elle s'est vengée de l'horreur dès qu'elle est sortie de ce camp.
En plein cœur, cette fois du 11e arrondissement de Paris. Il y a plein de plantes ici. C'est une cour d'immeubles anciens, l'immeuble où Ginette Kolinka a toujours vécu, ou presque. Elle y a grandi et puis elle a acheté l'appartement familial quelques années après son retour des camps. Alors, il y a un mot sur la porte. Ma sonnette ou mes oreilles ou les deux vieillissent. Allez-y, sonnez plusieurs fois très fort. Vous aurez peut-être la chance que je vous ouvre la porte assez rapidement. Ginette, pas sourde, mais malentendante.
Ah, j'ai entendu. Oh, mais dis donc, alors ça, c'est l'heure militaire, hein. Ah, dis donc, c'est pas 3h10, 3h15. Bonjour.
Il fait sombre chez vous.
Ah ben oui, c'est comme ça, on voit pas mes rides.
Qu'est-ce qu'il y a sur le mur qui est là?
Vous n'avez pas vu? C'est la première chose qu'on voit quand on rentre chez moi. Alors les gens me disent, ah, vous êtes fan aussi? Ah oui, oui, très.
Vous pouvez nous dire ce que c'est?
Eh ben écoutez, ça ressemble au groupe Téléphone. Hein. C'est leur premier, tous les disques d'or qu'ils ont eu, de platine aussi.
D'accord, donc c'est vous la gardienne du musée?
Oui, c'est ça.
Interception.
Très bien. On va s'installer?
Eh bien, allons-y, gaiement.
Sur France Inter.
Ginette Colinca a bientôt 94 ans. On peut dire que votre vie ne ressemble pas tellement à celle d'une retraitée.
Ah, ben écoutez, je ne connais pas la vie des retraités. Mais c'est vrai que j'ai une vie... Retraitée, c'est rien. Mais c'est vrai que 94 ans, moi-même, quelle fois j'ai... Ah ben mince, c'est quand même pas mal, Ginette. Hein. 94 ans, c'est quand même vieux, hein.
Avec tous les témoignages que vous faites dans toute la France, vous êtes prise tout le temps, vous avez un agenda de ministre.
Ah, c'est fou.
Comment vous faites pour rester aussi en forme à bientôt 94 ans?
C'est ça, justement, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Et il y a aussi le sport, quand même. Hein. Je fais quand même toujours de la gymnastique. Et puis l'alcool, je ne déteste pas.
Ginette Colinca, pourquoi vous avez gardé le silence sur votre déportation pendant 55 ans, jusqu'au début des années 2000, et pourquoi avoir justement, à ce moment-là, décidé de commencer à témoigner?
Pour moi, j'avais eu la chance de revenir. J'avais pas embêté les gens à m'écouter parler et à raconter toujours la même histoire. Ça casse les pieds, hein. Donc... Le jour où je sus que j'étais libérée, dans ma tête, je savais que je n'en parlerais pas.
Ça veut dire que vous n'en avez jamais parlé à votre mère ou à vos sœurs?
Non, non, non. Je ne pouvais pas dire. À ma mère, déjà, elle a su brutalement que son mari et son fils étaient gazés, leur corps brûlé, et qu'elle ne les reverrait plus. Alors, moi, je ne vais pas encore donner de détails pour les faire... ils savent qu'ils sont morts, et ben voilà, ça y est, ils sont morts.
Vous vous êtes mariée en 1952, et avec lui non plus, vous n'en avez jamais parlé?
Non, mon mari, non, non. Mais mon mari était prisonnier de guerre pendant 5 ans, c'est pareil.
Et en 40 ans de vie commune, il ne vous a jamais interrogé sur votre déportation?
Non, moi non plus. Moi non plus, je ne l'interrogeais pas sur sa vie de prisonnier.
Quand est-ce que vous avez commencé alors à en parler?
En 2000, parce que le président de mon association... l'UDA, Union des déportés d'Auschwitz, emmenait tous les ans des élèves au camp pour leur montrer ce que c'était qu'un camp d'extermination, de déportation. Il amenait toujours les mêmes personnes comme témoins. Et puis un jour, il y en a une de ces témoins qui est malade. Il m'a demandé de la remplacer. J'ai accepté.
Vous ressentez une responsabilité, justement, de faire partie des derniers?
Oh non, alors là, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je me sens pas avec un devoir. J'en parle, oui, c'est vrai, mais devoir de mémoire, ça fait drôle. Mais c'est vrai que quand j'ai fini de parler, j'espère que ces jeunes qui m'ont entendu parleront de cette histoire. Je sais pas si ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Moi, je suis pas persuadée. On a beau me dire si. Bon, je veux bien accepter que sur toute une classe, il y en a un ou deux qui saura apprécier ce que j'ai dit. C'est ce que j'espère. Un ou deux, c'est déjà pas mal parce que ça, une graine, ça peut se développer. Mais je suis pas persuadée. On a beau me le dire, moi je n'y crois qu'à moitié. Nos enfants, on les a pas mis dans le bain. Moi, j'ai jamais voulu embêter mon fils avec mon histoire. Hein, il l'a su parce que d'abord il y a le numéro et tout, mais s'il n'y avait pas le numéro, peut-être qu'il n'aurait même pas su que j'avais été déportée. Hein. Mais eh bien, on est beaucoup comme ça. Donc, j'espère qu'on en reparlera pour que ça ne recommence pas, surtout. Pour que ça ne recommence pas. Mais je ne suis pas tellement sûre du résultat.
Là, on est dans votre salon.
Ah ben oui, voilà. Ça lui ressemble.
Ça lui ressemble. peux nous parler des photos?
Attendez que je regarde. Mon mari et moi, ça, alors ça c'est ma sœur qui a 2 ans de plus que moi. Elle était malade. Et là, ben, ça c'est Simone Veil et son mari. Et ça, alors là, vous voyez, c'est tous des camarades de déportation. On se retrouvait une fois par an, tous les déportés qui étaient revenus d'Auschwitz. Et toutes ces copines-là, eh ben, il n'y a plus que moi qui suis vivante. Oh, c'est triste de voir ça quand même. D'un seul coup, je réalise. Il n'y aura pas de copines derrière moi quand je vais mourir. Elles seront toutes parties avant moi, les Russes.
Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux et envers ceux qui ne reviendront jamais, ne rien oublier.
Voilà, d'ici 5-10 minutes, on va arriver sur le site de la Judenrampe, c'est-à-dire le lieu où les convois de déportation des Juifs d'Europe sont arrivés au printemps 1942 jusqu'au printemps 1944. Vous avez la chance incroyable de pouvoir vivre cette expérience autour d'une des si rares rescapées du camp d'Auschwitz. D'Auschwitz, Birkenau. D'Auschwitz, Birkenau.
...65 km à l'ouest de Cracovie en Pologne. Nous venons d'entrer dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, là où a été déportée Ginette Kolinka il y a 75 ans, en avril 1944, par le convoi 71. Elle revient avec des élèves, cette fois 150 lycéens de Normandie, voyage organisé par le Mémorial de la Shoah. Il fait 5 degrés à peu près, il y a pas mal de vent, il y a de la neige aussi par terre, même si... on distingue encore largement la pelouse, mais tout le monde a un bonnet et des gants. Bonjour Ginette Kolinka.
Bonjour.
On vous a vu à Calais, on vous a vu à Paris, on vous retrouve
à Auschwitz. Et on ne peut plus se quitter, c'est comme ça.
Ça vous fait quoi Ginette à chaque fois que vous revenez ici?
Je devrais m'écrouler. Je ne m'écroule pas, je ne comprends pas. Moi je dis toujours j'ai laissé mes sentiments ici. Je devrais m'écrouler, c'est la dernière fois que je voyais vivant mon père, mon frère et mon neveu. Et je suis là et puis ça ne me le fait pas. Je vois ces wagons, on était entassés là-dedans, parce que moi mon wagon il était comme ça, vous voyez, fermé. Je ne dis pas que c'est celui-là, mais il n'y avait pas de fenêtre. Je devrais, et ben non, pas de sentiment. J'aimerais être émue, et je ne suis jamais émue, avoir la larme à l'œil. J'aimerais avoir la larme à l'œil de temps en temps. Je dirais, ben, c'est parce que j'ai des sentiments qui sont revenus. Même pas, je n'ai jamais la larme à l'œil. Maintenant, il faut dire aussi peut-être que j'aurais été comme ça avant. Hein. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de la déportation.
La visite du camp dure plusieurs heures, elle se fait par groupe. Notre guide francophone s'appelle Dorota Kusinska. Cela fait 20 ans qu'elle est guide à Auschwitz.
Il faut que vous sachiez que sur 1 300 000 personnes déportées à Auschwitz, environ 1 100 000 arrivaient comme juifs et 900 000 étaient assassinés immédiatement. C'est-à-dire les premiers jours, quelques heures après l'arrivée. Alors tous les témoignages que vous connaissez sur Auschwitz, ce sont les témoignages de la partie concentrationnelle.
Vincent, tu es en terminale pro au lycée La Place de Caen.
Oui.
Tu avais vu tout ça dans des livres, dans des films peut-être au lycée. Qu'est-ce que ça fait de voir ça en vrai?
En vrai, ça change. On peut s'imaginer à être à la place des Juifs ici. On peut, comme elle a dit Ginette, si on ferme les yeux, on peut voir tout ce qui s'est passé. Et c'est complètement différent que dans des livres ou un film, ou voilà, des choses comme ça. Ça permet de se rendre compte vraiment de ce qu'ils ont subi.
Au niveau des émotions, qu'est-ce que tu ressens?
Ouais, chamboulé un peu, le cœur qui bat. Et ouais, je sais pas après trop comment ça se passait après, mais peut-être peut-être un peu choqué, je pense. Je verrai. Pour l'instant, ça va encore, mais on verra par la suite.
Là, on voit vraiment les images typiques du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. avec les rails, bien évidemment, la porte centrale, les miradors, les barbelés et les baraquements de part et d'autre, avec également des wagons qui restent sur les rails.
Il y avait deux types de baraquements ici. Baraquements sanitaires, latrines, on les appelle comme ça, et nous sommes à l'intérieur d'une telle construction, et des baraques d'habitation. Je laisse la parole à Ginette, et après je complète peut-être, oui.
Bah, compléter, je ne sais pas ce que tu peux compléter, étant donné que j'ai vécu ça et toi non. Mais par contre, c'est vrai que cette salle, on n'y va pas toujours, et moi je regrette. Parce que je trouve que tout le monde doit voir jusqu'à quel point les nazis, on n'était rien pour eux, on n'était pas des êtres humains. Vous vous imaginez, on vous emmène aux toilettes et vous découvrez un endroit comme ça. Regardez, est-ce que vous les voyez, vous, les silhouettes là? Vous les voyez? Vous voyez les fesses de tout le monde, côte à côte, dos à dos? Moi, je les vois. Et moi, je les vois, et je vous garantis que ce n'est pas des fesses rondes, ce n'est pas des belles fesses. Non, non, vous voyez même le bassin, les os du bassin, vous voyez les vertèbres. Tout ça. Et ces femmes, quand on voyait les vertèbres et quand on voyait les os du bassin, c'est parce que c'était des femmes très, très, très maigres. Je ne crois pas qu'on puisse voir en même temps que ce que je parle, ce que moi je vois. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que moi non plus, peut-être que si j'avais été à votre place, je ne me serais pas rendu compte de ça. Alors, en plus, l'odeur. Nous, c'était pas clair comme ça, il n'y avait pas d'air. C'était la saleté tout le temps. On a vécu dans la saleté, dans la crasse.
Voilà, mesdames et messieurs, on est tous réunis au terme de cette matinée sur le site d'Auschwitz-Birkenau pour un moment de recueillement. Qui est l'un des points d'orgue de ce voyage d'études organisé par la région Normandie, le mémorial de la Shoah. Ginette Colinca.
Est-ce que vous avez vu seulement une trace d'une seule tombe? Vous avez vu?
Non.
Vous l'avez vu? Non. Eh bien, c'est le plus grand cimetière du monde où il n'y a pas la trace d'une seule tombe. Ces nazis ont fait des choses impensable, incroyable, inimaginable, mais il n'y a pas une trace de leur forfait. Pas une seule trace. Nulle part.
Que ce lieu soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Voilà ce que l'on peut lire sur l'une des nombreuses plaques dans toutes les langues ici devant ce monument. Une minute de silence vient d'ailleurs de débuter en hommage à toutes les victimes d'Auschwitz-Birkenau.
Je vous remercie. Cette cérémonie est à présent terminée. Nous allons achever cette matinée ici à Birkenau en repassant sous le porche d'entrée dans le camp, regagner l'écart et puis poursuivre le déroulé de cette journée. Merci à vous.
Tom.
Tu as quel âge, Tom?
17 ans.
Tu as peur, ou est-ce que tu penses en tout cas que ça peut recommencer?
Bien sûr, bah, surtout de vu ce qui se passe en ce moment dans le monde, on n'est jamais à l'abri de rien, donc c'est à nous, futures générations, de faire en sorte que tout ça n'arrive pas. Quoi.
Tu fais allusion à quoi, par exemple?
Mais évidemment, le président aux États-Unis, au Brésil, en Russie aussi.
En Europe aussi, on parle beaucoup de la montée de l'extrême droite.
Oui, voilà. Donc tout ça peut potentiellement faire revenir tout ça ici, quoi. Mais c'est à nous aussi de faire en sorte que ça n'arrive pas.
Hugo, on vient de finir cette journée à Auschwitz. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
C'est quand on vient de rentrer dans la salle des cheveux. Ça m'a fait un choc. C'était des piles entières de cheveux. Et je veux dire que tout ça, ça venait de mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis pas resté longtemps, quoi. On se rend compte tout de suite, juste en une salle, on se rend compte de ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que tu vas dire à ta famille, à tes amis quand tu vas rentrer à Caen?
Beaucoup de choses. Je sais pas du tout par quoi commencer quand je vais arriver. J'ai beaucoup de choses à leur montrer, les photos, beaucoup de choses à leur dire. À leur faire comprendre que ils sont jamais venus et leur faire comprendre que moi j'ai vu ça et que je peux vous dire que c'était réel. Et que c'est pas une blague du tout.
Et il s'en décrit des larmes, la mort pour celui qui vit. Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher.
Ce 27 janvier, c'est le 74e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge.
Mais un jour dans notre vie,
Shoah, les derniers passeurs de mémoire, c'était un reportage de Victor Mattei, prise de son Romain Lucquins, mixage Julien Michel, réalisation Violaine Ballet assistée de Mao de Butler. À la semaine prochaine.
Où nous pourrons revivre, aimer, aimer.